France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Mathilde Forget. J'ai eu la chance de lire votre roman pendant cette période un peu hors du temps que peut être Noël lorsqu'on est libraire. Et je dois dire que ça a été une formidable parenthèse de lecture. J'ai été conquise par Edith, votre héroïne, cette jeune femme traversée par une foule de sentiments, d'émotions et qui porte en elle un drame et qui va découvrir le désir, l'amour et qu'on peut aussi aimer les filles lorsqu'on en est une soi-même.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Parfois, il n'y a rien à faire, la mort se superpose à l'amour. Une bête panique au fond du cœur se réveille et rappelle en meute les chagrins d'enfance. Dans le roman qui nous occupe aujourd'hui, un train de banlieue, des cheveux bouclés bruns, une fausse barbe en mousse de bain et le temps, il faut bien le dire, sont en mesure de faire dérailler les terreurs anciennes vers un au-delà joyeux, désirant, même si pas consolé de tout et certainement pas du suicide maternel à propos duquel la narratrice ne veut rien écrire de bien formulé. Raconter, écrire, petit à petit, défier la peur terrible de perdre et par le sentiment amoureux et son langage peut-être, visiter autrement la tête secrète de l'enfance. Tels sont les objets du roman de Mathilde Forget, elle est notre invitée. Ensuite, et comme chaque semaine, on parlera littérature jeunesse avec Mathilde Wagman. Aujourd'hui, elle parle d'albums jeunesse qui évoquent, mais sans évoquer, la séparation parentale et au passage, plusieurs formes de famille. On est ensemble pour une heure, j'ai très très mal aux dents. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Mais je vais articuler au moins pour une heure. Bonjour Mathilde Forget.
Bonjour.
Je préfère le dire plutôt que tout le monde se dise « mais c'est trop bizarre en fait comment on entend résonner sa molaire à droite ». Certaines fièvres échappent au mercure apparu en cette rentrée littéraire de janvier aux éditions de l'Iconoclaste. On est vraiment ravis de vous recevoir pour ce texte qui nous a beaucoup touchés. Ici, tout commence toujours par un questionnaire lecture. On se demande quel est le rapport de nos invités avec les livres ou elles ont rencontré sur leur route. Il se trouve qu'on vous a déjà reçu ici pour généreusement parler d'autres textes. Donc vous êtes déjà venue parler de vous en tant que lectrice, mais si on remonte un petit peu l'horloge du temps, comme vous le faites d'ailleurs dans votre roman, et qu'on vous découvre au début de votre vie de lectrice, on vous trouve où, Mathilde Forget ?
Ben, c'est tard, ça vient tard, parce qu'en fait, à cause de la dyslexie, de la dysorthographie, les livres sont d'abord pour moi un outil utilisé par l'école pour me blesser. Et donc je m'en tiens, je me mets à distance. Mais je me suis souvenue que quand même j'avais des livres chez moi dans le bureau de mon père. On n'avait pas le droit d'y aller, mais donc du coup on y allait. Et j'ai pris le livre qui était le plus fin, qui était vraiment très très fin, qui devait faire 80 pages. Et je me suis dit bon, si celui-là essaie de m'humilier, ça durera pas longtemps. Et c'était Les Combustibles d'Amélie Nothomb. Et donc, j'ai lu le livre et enfin, j'étais moi aussi bouleversée par la lecture. Je faisais partie de ce club qui avait l'air un peu magique. Mais patatras, l'humiliation est revenue parce que Amélie Nothomb était annoncée à la FNAC de la ville. Et donc, j'y suis allée avec mon petit livre. Et j'y suis allée 2 heures en avance en prenant le bus. Et en fait, j'ai demandé au monsieur de la FNAC, est-ce que Nathalie Nothomb va bien arriver à 14h30 ? Et donc, il m'a corrigée, et cette correction m'a rappelé l'école, et après, j'y suis pas retournée. Enfin, je suis pas retournée vers les livres avant 25 ans, pratiquement.
Ah oui. Et ouais. Entre-temps, c'est-à-dire, à ce moment-là, c'est quel âge, à peu près?
Là, je pense que je suis au collège. Amélie Nothomb, je suis au collège. Et oui, bah après, en fait, moi, j'aime qu'on me raconte des histoires, donc je vais les trouver ailleurs. Je vais les trouver dans le cinéma. Mais la lecture, oui, non.
Il y a quoi dans... Oui, non, c'est une très bonne réponse. Je pense qu'on pourrait terminer le questionnaire ici, non? Il y a quoi dans Les Comestibles d'Amélie Nothomb? Qu'est-ce qui vous attrape à ce moment-là?
Bah, c'est une histoire de littérature. En plus, c'est l'histoire de... Il faut brûler des livres, hein, c'est ça, pour se réchauffer. Donc, on choisit quel livre on va brûler. Et l'histoire, en fait, et aussi parce que... Moi, ce que je voyais quand les autres lisaient des livres, je me disais... Bon, déjà, c'est du papier qui raconte une histoire, ça me semblait dingue. Moi, j'étais... avec ma télé, donc ça se passait bien. J'avais aussi des histoires qu'on me racontait, mais là, c'était du papier. Et en plus, je sentais qu'il y avait... En fait, l'histoire ne se révélait pas si on ne la lisait pas. Et ça me paraissait magique. Parce que ma télé, si je m'en vais, elle continue de raconter l'histoire. Il n'y a pas de relation. Et là, l'histoire n'advient que si les deux se mettent en connexion. Donc, c'était surtout ça. C'est peut-être au-delà de... C'était peut-être pas forcément... Ça venait pas du livre en lui-même. Voilà, il y a eu cette rencontre qui a été possible, peut-être parce qu'il était petit et que du coup, j'ai pu y aller sans avoir trop peur.
Et alors, à 25 ans, quand vous y revenez vers quoi et comment ?
Eh bien, j'ai une amie qui travaille qui est assistante mise en scène sur l'adaptation au théâtre de Un amour impossible de Christine Angot et qui me dit, il faut que tu lises ce livre. Je vais l'acheter, j'achète des livres en général, mais je ne les lis pas forcément. Et je le lis et je me souviens de ce moment. Là, par contre, c'est un choc. Je me souviens de l'odeur, de la musique que j'écoutais. Et en fait, je pense que là, la lecture est restée parce que l'écriture est arrivée en même temps.
Écriture à vous.
Ouais. J'ai refermé le livre, j'ai commencé à écrire et après, je n'ai fait que écrire et lire. Enfin, pas que. Mais en tout cas, là, d'un coup, ma vie a été remplie de lecture et d'écriture. Et les deux se sont nourris et sont nés ensemble, en fait.
Et avant ça, il y a beaucoup de musique dans votre vie, qui reste là d'ailleurs, et il n'y a pas de dialogue, vous n'écrivez pas. C'est-à-dire que tout ce que vous écrivez en musique, ou jouez en musique, ou vivez en musique, n'a pas besoin des mots.
Si, parce qu'il y a des chansons. Donc il y a quand même des chansons, effectivement. Donc il y a des paroles que j'écris, mais c'est vrai que, je ne sais pas, je suis protégée par la musique, parce que la musique, justement, ça a été un refuge. Pour moi qui avais du mal peut-être avec les mots, tout de suite la musique est venue me récupérer et je pouvais m'exprimer, même s'il y a aussi un langage qui est le solfège derrière à respecter, on peut s'en émanciper plus facilement, je trouve, en tout cas c'est moins c'est plus possible en fait d'inventer tout de suite son propre langage. Et après il y a quand même, j'écris des textes, oui, donc l'écriture est quand même présente.
Mais d'ailleurs, à ce compte-là, plusieurs invités mentionnent la chanson ou le rap ou la poésie comme ayant été pendant toute l'adolescence ou le début de l'âge adulte leur accès à ce qu'ils considèrent comme étant leur territoire littéraire. Est-ce que c'était
oui,
le cas
vrai,
pour
c'est
vous
vrai. C'est vrai, parce que je parle beaucoup du cinéma. Mais en fait, il y a beaucoup de chansons, oui, c'est vrai, de chansons, ce qu'on appelle les chansons à texte, mais enfin, des chansons avec des textes, quoi. Et oui, c'est vrai. Et ça, je pense que ça fait partie peut-être effectivement de mon univers littéraire.
Donc, choc avec Christine Angot, Un amour impossible. À partir là, vous dites, Mathilde Forget, je ne fais plus que lire et écrire. Et vous vous dirigez vers quoi ?
Eh bien, je dévore Olivia Rosenthal et Annie Ernaux en même temps. Et je pense que du coup, mon écriture, elle se construit entre ces deux littératures qui sont assez différentes. Et je me balade entre les deux, donc une littérature un peu expérimentale du côté d'Olivia Rosenthal et plus frontale du côté d'Annie Ernaux. Et j'écris en même temps mes textes et je pense qu'en fait, le fait de pas avoir eu beaucoup de passé avec la littérature m'a rendu très libre. Contrairement à la musique, quand je commence à composer, je pense à Schubert, donc c'est très très
c'est
impressionnant.
Lourd.
Alors que là, je suis arrivée, je pensais à personne, donc c'était beaucoup de liberté et puis beaucoup de porosité aussi, c'est vrai, j'étais très influencée, je pense, dans mon écriture, mais j'ai aimé ça beaucoup. J'ai aimé faire un peu comme Olivia Rosenthal, je voulais faire comme Édouard Louis, puis après voilà, et en fait j'ai trouvé mon identité petit à petit et voilà.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement ici assez rare que soit autant mentionné de la littérature contemporaine, voire ultra-contemporaine, comme étant un univers de lecture. Et déjà, c'est un côté vivifiant. Et d'autre part, peut-être ça nous parle aussi de là où vous êtes en littérature, Mathilde Forget.
Oui, complètement, c'est vrai. C'est vrai, quand j'entends beaucoup les autres écrivains, il y a beaucoup de références plus anciennes et un rapport à la littérature contemporaine qui est moins intense que le mien. Moi, je lis pratiquement que la littérature contemporaine. Je rattrape pas mon retard, malheureusement, mais...
Si tant est qu'il faille l'imaginer comme ça,
oui,
comme un retard, ça se trouve,
oui,
on n'est pas obligé de l'imaginer comme ça.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, à la rentrée littéraire, j'achète 4-5 livres. Exactement, je suis contente. Et puis en janvier, ça repart, donc je lis encore, voilà. Donc oui, c'est vrai que ce que je lis, c'est toujours que de la littérature contemporaine, et que c'est sûr que du coup, ça m'axe aussi, moi, dans mon travail, dans quelque chose de très contemporain, de recherche aussi. Moi, quand je commence un livre, toujours, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je veux inventer dans la forme ? Et donc ça, peut-être que ça me vient aussi de mon contact avec des autrices comme Rosenthal ou des gens qui expérimentent des choses.
Et quand vous dites cette recherche, elle se tourne vers la lecture, c'est-à-dire que pour chercher, il y a une partie de votre recherche qui passe par la lecture ?
Quand j'écris ?
Quand vous vivez, quoi. Enfin.
Ah oui.
Quand vous vous mettez à chercher ?
Alors, non, mais enfin, ça m'inspire avant, mais après, c'est vrai que dans le plus dur de la recherche et de l'écriture, je ne lis pas. Mais forcément, je suis nourrie. C'est un dialogue aussi, c'est un dialogue avec d'autres gens qui fabriquent des choses comme moi. Enfin, j'ai l'impression d'arriver, de moi aussi, de vouloir fabriquer quelque chose. Je regarde qui a fait quoi, de quelle manière. Et donc, oui, la lecture, après, fait complètement partie de ce que j'ai envie de chercher dans l'écriture.
Il y a trois autrices en exergue de votre roman, Audrey Lorde, Hélène Cixous et Dorothy Allison. Avec l'idée comme ça, quand on ouvre aussi peut-être d'un chemin ou des aînés et ES, est-ce que c'est comme ça que vous les avez pensés en les plaçant là, presque à l'entrée?
Oui, complètement. Dorothy Allison, presque, je l'ai mis là comme presque moins comme les échos qu'il pourrait y avoir avec le texte, mais parce que je l'aime trop, quoi. Donc ça me fait plaisir. En fait, on a le droit de mettre ce qu'on veut au début.
On fait vraiment tout ce qu'on veut.
C'est vraiment un jeu. Et donc à chaque fois, je change jusqu'au dernier moment. Je suis, oh non, j'ai envie de mettre elle. Et oui, c'est un hommage. C'est aussi pour justement donner des idées de lecture éventuellement. Et puis c'est des belles citations sur l'amour. Donc ça accompagne le livre.
Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que vous avez découvert l'œuvre de Dorothy Allison? Et comment?
Je pense que c'est Poe, et je pense que c'est parce que c'est un peu lesbien, et que quand on...
Poe étant le titre du livre.
Oui, pardon.
Non pas la
oui.
Vie française, ou Paul. Edgar Poe, ou je
mais
ne sais
non,
pas.
Voilà. Et donc je lis Poe et je suis bouleversée, et après je découvre aussi sa poésie, et jusqu'au dernier, Trois choses dont je suis sûre, qui est genre sublime, et c'était, je crois, un peu avant le confinement, donc pareil, c'était pas il y a si longtemps en fait, et après je lis tout ce que je peux lire d'elle, et voilà.
Et ça nous met sur la piste de quelque chose, puisque la citation que vous avez choisie dans cet espace où vous faites ce que vous voulez, Mathilde Forget, c'est « Raconter l'histoire jusqu'au bout est un acte d'amour ». Et c'est vraiment une des lignes de force de Certaines fièvres échappent au mercure, dont on va parler dans un instant, juste après ce titre de Katie Lesler, interprété par elle, qui est tiré de la bande originale du film Blue Velvet de David Lynch, et qui s'appelle « Love Letters ». Et il y a plusieurs, vraiment plusieurs lettres d'amour dans votre roman.
Love letters straight from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night. When I can have all the love you write, I'll memorize every line, and I kiss the name that you sign. And darling, then I read again right from the start. Love letters straight from your heart. I memorize every line. And I kiss the name that you sign. And darling, then I read again right from the start. Love letters straight from your heart.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Certaines fièvres échappent au mercure cet après-midi dans votre book club. La fièvre infinie du chagrin, celle de l'amour naissant, la fièvre du désir. Elles échappent peut-être à la mesure du thermomètre, mais pas à la littérature. Dans votre dernier roman, plusieurs espaces existent, Mathilde Forget, plusieurs cachettes, plusieurs abris. Et votre narratrice semble aller de l'un à l'autre comme en poussant les rideaux d'un film de David Lynch. Une enfant découvre la possibilité de la mort avec le suicide de sa mère alors qu'elle a 8 ans. Elle découvre, presque dans le même choc contre rien, la possibilité de l'amour pour les filles. Les orphelins sont des assassins, écrivez-vous, car les orphelins ont une peur bleue de la perte. Mais un jour, dans un train de banlieue, votre personnage principal reçoit la morsure du désir du réel et ça change beaucoup de choses à la vie. De se rappeler qu'on a un grand cœur. Certaines fièvres échappent au mercure, apparu aux éditions de l'Iconoclaste, bah dans le train, justement.
C'est arrivé dans un train direction Cergy. Un train où la place des bagages ressemble à des cageots en fer, acides si l'on passait la langue dessus. C'est arrivé dans un train direction Cergy-Léo, pas à grande vitesse. Cette histoire a mis du temps à démarrer. Tu es passé me prendre en scooter pour aller à la gare. Tu m'as tendu un deuxième casque noir, trop grand pour moi. Quand tu enlèves le tien, tu ne penses pas au fait que les boucles de tes cheveux sont aplaties. Il faut attendre que quelqu'un te regarde, et avec un geste rapide et très peu appliqué, un geste qui dans le fond s'en fout un peu, tu remets du volume à tout ça. Un regard posé sur toi te rappelle ton corps, alors tu l'arranges. Tu n'aimes pas ça. Un regard posé sur toi change ton visage, l'installe en face de 1000 vautours menaçants, intimidants. Si personne ne fait apparaître ces oiseaux lourds et humides devant toi, tu laisses tes boucles aplaties, parce que tu n'y penses pas, parce que sans l'autre, tu n'as pas de regard posé sur toi. C'est moi qui me suis approchée la première. Non, souviens-toi, c'est moi. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, écrire l'histoire, c'est lui permettre de nous échapper. Écrire l'histoire avant sa fin, c'est risqué, parce qu'il faudra choisir une fin. Au fond, ce qui fait peur, c'est qu'écrire l'histoire aura forcément un impact.
I found that I had to go back down inside myself.
J'ai découvert que je devais aller au plus profond de moi-même, réexaminer les façons dont le lien entre moi et les femmes qui ont partagé ma vie, qui ont été si formatrices dans ma vie, m'ont vraiment maintenu en vie dans certains moments difficiles. Ce dont je parle, c'est d'une compréhension difficile et profondément complexe de la façon dont l'amour fonctionne. Ce n'est pas « ils vécurent heureux pour toujours » ou « oh, tout va s'arranger miraculeusement pour nous tous ». Non, je parle de cette vraie rencontre, de cette véritable connexion qui peut se produire entre deux êtres humains, entre deux femmes, la manière dont on va partager nos réussites et nos échecs, qui crée ce lien si fort. Et c'est en ce sens que je parle de l'amour. L'amour comme le lien le plus fondamental, comme une renaissance à soi, grâce à l'autre et par l'autre.
C'est la voix de la poétesse Audre Lorde en 1982, qui parle de la manière dont écrire sur l'amour qu'elle a eu pour certaines femmes lui a aussi permis de comprendre ce lien-là. Et juste avant, on entendait un extrait de votre roman Mathilde Forget, certaines fièvres échappent au mercure. Peut-être plusieurs choses à dire à partir de ce montage-là. Il y a dans le premier extrait qu'on vous propose d'entendre de votre propre texte, l'idée que écrire l'histoire et entreprendre d'écrire cette histoire et en fait pas mal d'autres histoires dans ce roman, c'est prendre le risque que ça change quelque chose, qu'il y ait un impact sur le réel, sur votre vie, sur les souvenirs, sur la mémoire. Est-ce que ça a fait de cette écriture une sorte d'aventure risquée ?
Oui, complètement. Complètement, parce que pour les deux livres précédents, j'écrivais sur des choses qui avaient quelque chose de fini dans le déroulé des événements, en tout cas. Et donc j'y vais toujours en, en essayant, parce que je ne comprends pas quelque chose en général quand je commence à écrire. Mais là, je comprenais pas quelque chose qui était en train de se faire, et c'était extrêmement déstabilisant d'écrire sur quelque chose qui était en train de se faire, et je sentais que c'était risqué, oui, parce que ça a un véritable impact sur le réel, ce qu'on en fait, ce qu'on en écrit, en fait. Et donc, je suis partie dans cette aventure, oui, en me disant, je sais pas du tout comment ça va se terminer. C'est un texte que j'ai abandonné plusieurs fois, qui a été vraiment difficile à tenir parce que la matière était plus vivante que les autres et ça m'échappait beaucoup. Et voilà.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on entend, c'est qu'il faut trouver un début. Et en fait, vous vous débrouillez pour qu'il y en ait plusieurs. Le premier début est un faux début, c'est un début imaginaire. Si nous avions été ensemble à l'école, alors peut-être qu'il se serait passé ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans ce train, nous nous sommes rendus compte de l'effet qu'on se faisait. Bon, c'est une histoire d'amour qui commence. Mais en réalité, tout va être un petit peu plus compliqué que ça. Et je le disais en introduction, des fois, il n'y a rien à faire, la mort se superpose à l'amour. Et dans ce tu qu'on entend là, dans l'extrait de votre texte, c'est l'amoureuse dont il est question. Mais un peu plus tard dans le roman, le tu servira à parler à la mère suicidée. Et en fait, le tu peut-être parlera à la lectrice, le tu parlera à vous-même. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'usage que vous faites de ce pronom-là dans votre roman ?
En tout cas, ce que je peux dire, c'est que, effectivement, très vite, de parler, d'écrire sur la mort n'était pas prévu. Et en fait, la mort a vraiment surgi dans le texte. J'ai commencé à écrire la scène où la mère s'effondre en larmes. Et après, le texte n'a été qu'un duel entre le rapport à l'amour et le rapport à la mort. Et j'ai après donc construit cette narratrice qui est presque en relation amoureuse avec la mort depuis le suicide de sa mère. Et donc finalement l'adresse les deux tue, c'est parce qu'au final c'est comme si elle devait dire adieu à sa mère avant de pouvoir dire je t'aime à quelqu'un, et donc j'ai trouvé oui que l'idée de à un moment donné qu'elle récupère ce tue pour la mère vient raconter qu'il y a quelque chose de cette relation avec la mère qu'il faut venir chercher, ou en tout cas venir interroger, venir terminer peut-être ou pas, pour pouvoir commencer une autre adresse, pour pouvoir vraiment s'adresser au tu à l'amoureuse sans le spectre de la mort. Je crois que c'est la première fois que j'écris au tu, et c'était un peu étrange, c'est tellement rapide.
Vous voulez dire comme manière d'atteindre
Mais bon, pour celui-là, j'ai suis allée dans plein d'endroits qui étaient vraiment nouveaux et effrayants, mais bon, j'y suis allée et ça permet aussi quelque chose de très vivant, je sais pas, qui bouge encore, quoi.
On entendait dans cette archive Audrey Lorde dire en 1982 qu'il y avait aussi quelque chose à comprendre pour elle dans ce lien amoureux, que c'était le lien le plus important, le plus proche. Sans quitter la veine romanesque, on va dire, il me semble qu'il y a quelque chose un peu de cette entreprise-là dans votre livre, Mathilde Forget. C'est qu'on a l'impression que c'est comme si vous donniez les moyens, mais aussi en même temps à nous, de voir qu'est-ce qu'il y a quand on ouvre l'amour ou le désir. Il y a quoi dedans ? Et c'est pas que beau, c'est pas que simple.
Ben absolument, elle est trop belle l'archive. Et Audrey Lorde, elle est à la fois au début du roman, elle est dans le roman, elle est partout. Parce qu'on le dit moins, mais ce qu'elle écrit sur l'amour est absolument bouleversant dans ce que ça raconte réellement de c'est quoi de vivre avec quelqu'un. Et effectivement, le projet, ce que je disais tout à l'heure, quand je commence à écrire, c'est que je comprends pas quelque chose. Ou alors que ces choses-là sont enfermées dans des phrases un peu où on sait pas exactement ce que ça veut dire. Et quand on dit, voilà, j'ai fait une rencontre qui m'a bouleversée, je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire, comment on est bouleversé, ça bouleverse quoi, quand on a l'impression que, oui, qu'il y a eu même un moment de ce qu'on appelle de coup de foudre, de qu'est-ce qui nous a connectés à l'autre, ou, donc voilà, je voulais explorer tout ça. Et puis, c'était important pour moi de parler de l'amour, parce que, de la rencontre amoureuse, parce qu'après, j'ai construit aussi dans le roman sur ma réflexion que j'ai un peu dans tous les livres sur la maladie mentale, cette idée de tête secrète. Mmh. Et donc j'ai imaginé qu'on avait tous une tête secrète et que finalement la rencontre amoureuse c'était peut-être la possibilité de partager nos têtes secrètes. Donc j'ai essayé d'inventer des choses dans la fiction pour essayer de donner des images à cette rencontre amoureuse et aussi de raconter des choses très concrètes comme la bouteille de ketchup ou les poils sur la joue qui un jour, enfin qui à un moment donné, parce que c'est cette personne, deviennent fantastiques. Et puis je me suis rendu compte, et ça c'était merveilleux pour la question de la littérature, c'est qu'en fait l'amour ce n'est que se raconter des histoires et que on fait que de raconter comment on s'est rencontrés, mmh. et comme ça, non moi je pense plutôt comme ça, et toi quand t'étais petite c'était quoi, et donc et quand comment notre histoire va continuer, enfin on fait que de se raconter des histoires, donc après la question de la fiction aussi a pris beaucoup de place. Et
on va y venir, parce qu'il y a une dimension aussi politique des différents espaces de fiction dans ce roman-là, et comment ils ouvrent à la fois des possibilités, mais ces espaces de fiction, mais ils racontent comment, en tout cas dans un premier temps, tous les espaces ne sont pas possibles pour cette narratrice, et qu'elle les conquiert, peut-être par le choc simultané de l'amour et de la mort. C'est assez étrange de dire ça, c'est-à-dire qu'elle est en effet tellement déplacée, cette narratrice, que plein de cachettes, plein d'abris, plein d'espaces vont s'ouvrir à elle. Je voudrais qu'on écoute la voix de Mathilde, auditrice du Book Club. Elle vous a lu et elle vous adresse une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Mathilde Forger. Je dois dire que j'ai été particulièrement fascinée par votre style d'écriture, par ces chapitres courts et denses, parfois déroutants, mais qui rendent si bien compte à nous, lecteurs et lectrices, des pensées d'Edith et de son parcours. Et je voulais donc vous demander quel a été votre parcours à vous pour écrire ce roman, et de quoi et de qui on s'entoure lorsqu'on écrit. Merci pour votre réponse.
Merci à vous Mathilde pour cette lecture et pour cette belle question. De quoi, de qui on s'entoure quand on écrit ?
De temps, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, de silence, et puis d'amis précieux. J'en ai deux, Léna Gare et Lucie Rico, qui sont des autrices, et à qui je peux faire relire mes textes parfois, et qui m'aident avec leur retour. Et voilà, mais je dirais vraiment le temps et le silence, principalement.
Deux choses qui sont très à l'œuvre dans votre texte. C'est-à-dire que quand j'énumérais tout à l'heure ce qui est en mesure de faire dérailler les anciennes terreurs de cette narratrice, bien sûr, il y a l'amour, il y a des boucles brunes, il y a un certain angle de mâchoire, il y a la vie, puis il y a le temps, quoi. On a l'impression que c'est aussi un roman qui s'écrit maintenant parce que un certain temps a passé. Notamment un temps qui sépare l'enfance, de traumatisme de l'enfance. Non pas pour dire, ok, le temps règle tout et apaise tout, mais c'est un des ingrédients.
Oui, c'est possible. Et d'ailleurs, il faut être honnête aussi, peut-être que les rencontres, elles arrivent au bon moment, et que c'est pas simplement une question de personne, mais c'est aussi une question de temps, et que peut-être... Ce qu'il y a dans cette rencontre amoureuse pour Edith, c'est à la fois ce qu'elle bouleverse, mais qu'elle arrive au moment où la narratrice est prête à faire se battre l'amour et la mort entre elles, quoi. Et de voir qui va gagner à la fin.
Suspense. On va écouter la voix d'une autrice américaine encore qui s'appelle Eileen Miles. Je l'avais reçue ici dans l'émission Parler Temps qui court en 2022.
J'ai adoré les multiples couches superposées. On écrivait sur quelque chose, on avait l'impression d'avoir touché la réalité, et puis hop, on écrit quelque chose qui est clairement imaginaire. Et parfois, ma capacité à connaître la différence entre la réalité et l'imaginaire n'était pas tout à fait fiable. Mais c'est pour ça que les œuvres que j'aime sont des réinventions radicales de la fiction. Parce que les gens me demandent toujours, est-ce que ce sont des mémoires ? Est-ce que c'est de l'autofiction ? Et je réponds toujours, non, c'est de la fiction. C'est un voyage. Personne ne demande si un peintre qui peint avec de multiples couches fait un véritable tableau. C'est simplement une construction artistique. L'écrivain, que j'adore, que je lisais pendant que j'écrivais ça, c'était Violette le Duc. La Bâtarde, c'est un de mes livres préférés. Et c'est cette ligne extrêmement ténue entre la poésie et la prose, entre la fiction et la non-fiction, très mouvante. Et c'est exactement ça qu'elle décrivait, je crois.
L'autrice Aileen Miles parlait de, voilà, on l'écoute parler de ce mouvement entre fiction et réalité, mais aussi entre poésie et prose. Peut-être on pourrait détailler avec vous, Mathilde Forger, la place que vous faites à ce « si », à ce comme-si, à ces histoires fictives qui nourrissent l'avancée de votre roman et aussi de notre lien, en fait, avec la narratrice Edith.
Oui, bah ça, c'est un de mes débats préférés. C'est vraiment cette question de est-ce qu'il y a de l'invention dans l'autofiction et est-ce qu'il y a du récit de soi dans la fiction?
Bah, l'occurrence, vous pliez le game en disant qu'il y a invention, non?
Ah bah, complètement.
J'ai l'impression que vous l'affichez même
un
projet.
Bah, du coup, exactement. C'était mon projet parce qu'à chaque fois, je veux écrire sur quelque chose que je comprends pas, mais je cherche une invention dans la forme. Et pour celui-là, je me suis dit, je vais m'amuser à ce qui existe dans le même livre, la version autofiction. Sans trop d'invention, et puis la version fiction, et on va voir en fait que dans l'autofiction il y a de l'invention, enfin etc. Je voulais brouiller les pistes et je voulais que les deux existent dans le même livre, parce que ça me paraît dingue de penser qu'il n'y a pas d'invention dans l'autofiction, et donc voilà, je voulais que ça... Et puis en fait je voulais aussi que le lecteur puisse, au lieu de se demander est-ce qu'il y a de l'invention ou pas, de voir quand il se déplace d'une forme à l'autre, qu'est-ce qu'il ressent, est-ce que quand on lui dit que c'est vrai, qu'est-ce que ça vient de toucher en plus ou en moins, est-ce que quand on lui révèle après qu'en fait c'était faux, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas que ça a été inventé par l'auteur, quelle émotion ça lui fait, est-ce qu'il se sent trahi ou pas, tout ça. Et je voulais que dans le même livre il puisse se voyager entre les deux, et donc j'ai fait totalement imaginer plein de choses de cette histoire, et puis après je reviens vers quelque chose de plus réel avec notamment des documents, donc avec des lettres où là a priori on se dit bon, on revient dans le réel,
mais c'est aussi raconter que, comme vous le disiez tout à l'heure, on se raconte des histoires, c'est-à-dire il y a de l'invention dans la rencontre amoureuse. Il y a un très beau passage où vous rendez compte de Edith se racontant ce que fait son amoureuse ou sa future amoureuse ce soir-là précisément, ou quand elle va aux toilettes du cinéma. Vous racontez comment elle s'imagine que peut-être elle va répondre ou non à un texto, c'est-à-dire la projection et la vie mentale et fantasmagorique autour d'une rencontre amoureuse. Finalement, c'est aussi de l'invention, Mathilde Forger, de la même manière que vous racontez la pensée magique ou fantasmagorique et ou destructrice d'une enfant qui essaye de comprendre le suicide de sa mère. Il y a aussi de l'invention, il y a aussi tout un tas de fictions pour y comprendre quelque chose.
Oui, complètement. Je pense que je me suis dit que face à la mort, on n'avait presque que la fiction pour s'en sortir. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Et même il n'y a pas longtemps, je me disais, mais en fait, peut-être que... quand les enfants vont se coucher, ou en tout cas dormir, c'est un peu comme la mort pour eux. Et que du coup, on leur raconte des histoires avant d'aller dormir pour qu'ils puissent supporter cette petite
ce
mort.
Passage.
Et quand on est adulte, on se raconte des histoires pour supporter d'aller mourir. Et donc, je voulais vraiment écrire sur ce que la fiction nous apporte et nous permet de supporter. Et que quand on a été confronté à la mort assez tôt, il me paraît assez clair que la fiction va nous aider. Et que l'amour est aussi un endroit où la fiction vient beaucoup, est produite et existe. Et l'histoire, là, pour Edith, c'était que les fictions qu'elle commençait à se raconter pour survivre à l'idée de la mort commençaient un peu à s'encrasser, parce qu'elles étaient très solitaires, elles n'étaient pas partagées, elles n'étaient pas écrites à deux, et que du coup, son rapport à la fiction l'isolait, et voire même pouvait... moi, je pense que c'est peut-être ça qu'on appelle la maladie mentale, à un moment donné, quand on a souffert et qu'on a été seul et qu'on a des histoires dans la tête et qu'on est seul avec. Et d'un coup, rencontrer quelqu'un et se raconter des histoires à deux, ça vient rafraîchir la fiction, ça vient l'éloigner de quelque chose qui deviendrait dangereux.
Et ça vient aussi éclairer certaines fictions en leur état sclérosé. Par exemple, Edith, l'une des fictions répétitives, mais celle-ci ne la sauve pas et l'empêche de vivre, c'est que quand quelqu'un sort de la pièce, et si possible quelqu'un qu'elle aime, et qu'elle ne voit plus ce quelqu'un, elle se dit que ce quelqu'un est mort et que ça, c'est une fiction répétitive et terrible et qui l'empêche d'aimer et qui l'empêche de vivre. La puissance d'invention qui s'ouvre à elle, et notamment une puissance d'invention poétique, elle a à voir avec le désir, avec l'érotisme, avec le corps de l'autre. On entendait Aline Maïs parler de Violette Leduc. Moi, j'ai pensé à Violette Leduc, dont vous avez préfacé la nouvelle édition de Ravage aux éditions Gallimard. On écoute un nouvel extrait de votre texte.
La découverte de ton visage le matin installe un large ventre dans ma gorge, prêt à tout avaler. Devant moi, ta nuque comme la promesse d'une respiration bousculée. Sur ta peau pousse du duvet, là où la phrase se loge en général. On peut commencer à la prononcer derrière l'oreille, à la jonction de la nuque et du cou, et alors elle se retrouve en bas du dos, au-dessus des fesses, dans ce duvet-là, le plus épais et brillant. Le temps que la phrase fasse ce trajet, ta langue s'engouffre. Je chuchote entre tes doigts pour recommencer tout de suite. Il y a entre nous toutes les phrases échangées avant qu'on l'on ose se toucher. Elles font une sueur au-dessus de la raie de nos culs. Elles font un tapis de confiance sur lequel s'allonger. Tu sens la lourdeur de ma chair s'approcher entre tes côtes et en bas, pour s'évanouir dans l'autre chair, en serrant les dents, grinçant des dents. Et la prochaine fois, la phrase ira se loger dans le duvet de son choix. De mon état fébrile, tout ce qui m'effrayait est redéposé dans le sable, à la manière des coquillages que l'on trie d'une poignée ramassée sur la plage. Ta lèvre du dessus occupe ma bouche. Les poils de tes jambes se rapprochent. Ma gorge s'élargit, je sens tes cheveux près de mes chevilles. L'été, la montagne dégage une odeur de plantes chaudes, sucrées, comme la confiture bouillie dans une marmite. Le sucre fait des bulles. Le soleil chauffe la flore et lui donne une odeur. Ton corps a cette odeur. Tu approches ton visage du mien, tes lèvres frôlent une idée moite, s'absentent furtivement pour glacer le désir, reviennent et se gonflent davantage à l'intérieur. Le désir efface l'espace entre mes jambes, déplace mon souffle. La texture de ta peau arrive dans mon ventre et calme l'état de mes catastrophes. Entre nos poils, la sève opaque et visqueuse de nos sexes tisse des toiles d'araignée qu'aucun mouvement ne peut vraiment abîmer. De cette matière-là, la toile juste se modifie sans se déchirer. Et parfois, de s'être mélangée si fort, elle va de tes branches aux miennes. Ma langue dans ta bouche respire comme le ventre d'un animal essoufflé de bonheur. Sous ton sein, tu as tatoué des roses rouges. Elles n'ont pas de tige. Simplement la fleur rouge vif et de fins traits noirs pour dire les pétales. Tu dis « Les poussières se coincent dans le nombril ». Tu écris « J'ai pensé à l'amour comme à un endroit, quand on le faisait à Bolbec ».
Cet extrait de votre livre, Mathilde Forget, Certaines fièvres échappent au mercure. Vous parliez tout à l'heure de la place d'une bouteille de ketchup ou de poils sur une joue ou de poils sur un mollet qui d'un seul coup cristallise la possibilité d'une histoire d'amour. Il y avait un enjeu pour vous d'écrire l'amour. Vous parliez tout à l'heure d'une recherche formelle, qu'il y a toujours quelque chose pour vous qui se tient de ce côté-là. D'écrire l'amour entre ces deux personnages avec une langue nouvelle. C'est bizarre de dire ça, peut-être c'est bizarre de dire une langue nouvelle.
Pour le sexe, par exemple, de manière...
Pour le sexe, pour le désir, pour la naissance du sentiment amoureux. Parce que moi, je trouve aussi, pour préciser ma pensée, ce qu'on n'a pas développé tout à l'heure quand vous parliez de la fiction et de « ça aurait pu se passer comme ça », ça part aussi d'une petite fille, d'une adolescente qui ne sait pas que c'est possible d'aimer les filles.
Oui, complètement.
Et que d'un seul coup, elle découvre que c'est possible. Et du coup, il y a aussi un autre monde du langage qui s'ouvre avec cette possibilité-là.
Oui, et au-delà du fait qu'elle aime les femmes et qu'elle croit que c'est pas possible, plus largement, je pense que je me suis demandé quel être d'amour on devient quand on a été... quand notre cœur a été brisé à l'enfance, en fait. Et de quelle manière c'est possible ou non, de quelle manière c'est différent. Et donc j'ai construit, je crois aussi, ces moments où elle imagine la mort des autres et notamment de l'amoureuse. Pour moi, il y a comme presque un rapport érotique. Pour moi, son désir, pour moi, presque elle fait l'amour avec l'autre en imaginant le sang qui coule et l'ambulance qui arrive et sa mort. Et indéfiniment, elle fait ça. Et c'est comme ça qu'elle a un rapport érotique aux autres. Et donc, petit à petit, l'idée est de comment voilà, elle va peut-être se déplacer et que les choses vont changer et que son érotisme va changer, ce qu'elle projette et son désir avec, va changer et devenir plus charnel et plus du côté de la vie que de la mort.
C'est peut-être là la langue nouvelle, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est pas tant un projet littéraire, mais plutôt comment est-ce que sa revivification, elle passe aussi par le langage. Parce que dans cette scène érotique, dans cette scène de sexe, en fait, les deux amantes, elles peuvent presque placer des phrases sur le... Enfin, c'est pas tant des caresses que des phrases qui vont d'un endroit de la peau à l'autre. Enfin, il y a quelque chose de très mêlé entre le langage et le sexe, et la sexualité.
Oui, mais je crois que j'avais envie d'écrire une histoire aussi où le sexe arrive très tard, et où le sexe n'est pas fondateur ou ne permet pas le rapprochement, ou en tout cas non. Et du coup, je voulais que le rapprochement, que la question du désir qui existe quand même, hein, même sans le sexe, voilà, je le fasse exister d'une autre manière et je suis perdue dans ma tête. Et voilà, donc oui, voilà. Donc en fait, finalement, quand le sexe arrive, il est nourri de tout ce qu'elles se sont dit avant, de toute la poésie qu'elles ont échangée avant. Et j'avais envie que ça existe dans cette scène, que le plus important et le plus important a été la langue qu'elles ont échangée avant, effectivement. Ouais.
Et peut-être qu'on va préciser ça à l'aide d'une archive de Monique Wittig et d'un nouvel extrait de votre texte, parce qu'il me semble que, de la même manière que je disais que ce roman, il permet d'ouvrir, comme vous disiez, des phrases toutes faites de c'est quoi faire une rencontre bouleversante, ou c'est quoi un coup de foudre, une rencontre amoureuse. En l'occurrence, vous dites, avec d'autres avant vous, hein, mais que c'est renouveler un langage qui nous permettrait de revisiter l'autobiographie, revisiter le passé, revisiter les souvenirs.
Je crois que les souvenirs, c'est plus intéressant de les fabriquer et à partir de là, de reconstituer une impression qui est propre à un souvenir, à ce qu'il reste d'un souvenir. Il reste une impression et à partir de cette impression, on essaie de reconstituer un souvenir. Et je crois que de cette façon, on arrive beaucoup plus à voir la tonalité du souvenir qu'en essayant de traduire le souvenir en lui-même.
C'est le début de l'après-midi, l'air est gonflé d'une chaleur satisfaite. Tu sors de la poche de ton short en coton beige, un peigne de couleur écaille. Presque sur la pointe des pieds, tu commences à coiffer la tête grise, dont les cheveux ont été humidifiés au préalable. Les sillons se dessinant sur le crâne ressemblent à ceux d'un râteau traîné dans le sable. En vérifiant son reflet dans le miroir, suspendu à une branche du tilleul, le grand-père valide la chevelure arrangée, une mèche plaquée et les oreilles dégagées. Avec sa large paume, il consolide l'ensemble en tapotant dessus. De sa main droite, il attrape le blaireau argenté sur la petite desserte, l'agite pour le dépoussiérer, avant de le tremper dans une bassine remplie de mousse blanche et épaisse. Puis il se retourne et te le tend. Tu déposes le pen à tes pieds sur la chaise, puis te redresses pour étaler la mousse blanche sur les joues et le menton de ton grand-père. Avec l'aisance de l'habitude, il passe maintenant la lame aiguisée de son coupe-chou le long de son visage. Il affûte sa gueule, sa grande gueule. Toi, tu sautes de ta chaise pour le regarder faire. La petite fille sait qu'elle rangera son peigne dans la poche de poitrine de sa chemise lorsqu'elle sera plus grande. Elle coincera aussi son paquet de cigarettes dans l'ourlet de sa manche repliée, comme le garçon du film. Sur la petite desserte, son grand-père repose le blaireau. Alors elle s'en empare et le passe sur son menton plusieurs fois et sous son nez, en tirant sur sa lèvre supérieure. En la voyant faire dans le reflet de la glace, son grand-père tourne la tête et interrompt le geste de la petite. « Eh bien, t'as une barbe, toi, maintenant ?»« Va plutôt nettoyer ce pauvre blaireau avant de lui faire tort définitivement. » J'ai pensé une fois, le sentiment amoureux permet d'habiter autrement le souvenir de son enfance. Il porte en lui un langage commun à l'enfance, celui de la curiosité, du jeu et de l'imagination. Ce langage retrouvé remet en mouvement les autobiographies des amants.
Un nouvel extrait de votre roman Mathilde Forget, qui jouxte la voix de Monique Wittig en 1964, parlant finalement d'une plus grande précision à reconstituer des impressions de souvenirs qu'à chercher la réalité des souvenirs. Et je trouve que c'est une idée très forte qu'agite votre roman, que le langage amoureux, la rencontre amoureuse, permet une revisitation de la biographie des amantes. Et elle se risque, Edith, à revisiter le passé, y compris les choses les plus douloureuses de son passé, comme réarmée, pacifiquement, hein, mais par l'amour. Elle est comme capable d'aller voir les jours qui ont précédé le suicide de sa mère, elle est comme capable, oui, je sais pas, de retourner dans le passé, quoi.
Oui, c'est exactement ça. C'était l'idée que cette personne, là, cette rencontre amoureuse, est tellement maintenant présente dans ce qu'elle doit affronter dans sa vie, qu'elle est même présente dans les moments où elle se remémore les souvenirs douloureux. Mmh. Et donc après, le plaisir et l'idée, c'était carrément d'écrire ses souvenirs et de sentir la présence de l'autre là. Et puis dans celui-là, dans l'extrait-là, c'est carrément où elle s'imagine l'enfance de l'autre. Mmh. Et ça, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi d'essayer d'imaginer un peu comme Mauvigné dans son dernier livre. J'aime trop comment il raconte l'histoire de sa famille en imaginant plein de choses. Et aussi, en tant que lecteur, on ne sait plus si on est vraiment dans le récit. Ça m'a fascinée. Et donc, il y avait un peu cette idée-là aussi dans le mien d'imaginer l'enfance de l'autre et de l'écrire. Et puis, d'écrire la mienne et de me rendre compte qu'elle a changé.
Le regard porté dessus a changé.
Oui, ouais. Oui. Et si les souvenirs sont une émotion avant même d'être les événements, et ben, quand j'y retourne, l'émotion a changé, en fait. Pas les événements, mais on ne ressuscite pas les gens avec une histoire d'amour, mais ce qu'ils sont à l'intérieur de la narratrice et de moi, et oui, ça a changé.
Avec ce fil de la fausse barbe, de la barbe en mousse, de l'image de la femme à barbe, d'un tatouage lié autant au corps sexué de l'amante qu'au corps asexué de l'enfant dans le bain, ça aussi c'est une sorte de jeu. Mais je suis sûre qu'en relisant le livre, on trouverait plein d'autres passerelles. Je reviens à l'idée, à l'image d'une narratrice qui passe d'abri en abri comme si elle pouvait passer de pièce à rideau de David Lynch en pièce à rideau de David Lynch. À quoi ça vous a servi ce motif-là de la barbe ?
Mais je crois que c'est un peu encore cette idée de la tête secrète, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée qu'on a rangé les moments de honte et de solitude dans une tête qu'on garde et qu'il faudrait parfois partager avec les autres pour pas qu'elle devienne une folie ou un désespoir. Et pour Edith, pour cette narratrice, il a quand même cette idée, c'est vrai au début, même si ça prend pas beaucoup de place dans le roman, mais de pas savoir comment on fait pour vivre quand on est une fille et qu'on aime les filles, et qu'on a le sentiment, parce qu'à l'époque, je suis vieille maintenant, il n'y avait pas autant de célébrités qui assumaient. Donc moi, je croyais que ça n'existait pas presque. Donc, je me disais, je n'existe pas. Et donc voilà, la barbe, elle est là parce que cette barbe l'a aidé, imaginaire quand même, à essayer de se dire que ça allait être possible. Et puis après, la question du jeu, pour moi, elle est très importante parce que...
J-E-U.
Oui, le jeu, oui. Parce que, voilà, je crois que ça, cette puissance que peut avoir la rencontre amoureuse pour redessiner aussi l'enfance, c'est parce qu'elle utilise le jeu et tout ce qu'on fait quand on est enfant, et que j'avais vraiment envie que ça existe entre les deux adultes et dans tout le livre, en fait.
Et que c'est ça aussi, avoir un cœur grand. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose que vous élargissez dans la façon de considérer qu'est-ce que c'est avoir un cœur grand. Se souvenir d'avoir un cœur grand, c'est oui, être capable d'aimer, désirer, faire l'amour, chanter, écrire et tout, mais jouer, imaginer, c'est ça aussi avoir un cœur large, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, et c'était important pour moi parce que des fois, je m'amuse en me disant, finalement, j'écris pour savoir pourquoi je suis pas devenue un psychopathe alors que j'ai été bouleversée à l'enfance. C'est que les biographies des psychopathes commencent par ça, mais... Et donc j'essaye de comprendre pourquoi je suis encore un être d'amour et par où ça passe, et de manière plus large que la question de l'amour entre deux personnes, effectivement.
Le book club continue.
France Culture, le book club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, grâce à vous, Mathilde Wagman, on parle de littérature jeunesse. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, vous partez, comme ça vous arrive de temps en temps ici, d'une question qu'on vous a adressée.
Oui Marie, la semaine dernière, une amie chère, récemment séparée du père de ses enfants, comme on dit, m'écrit pour me demander conseil. Aurais-tu des livres qui parlent de la séparation à nous recommander ? Si elle me posait la question, c'est parce qu'elle sait que je tiens cette chronique, mais aussi que je suis moi-même séparée, maman solo, en garde alternée, tout ça, tout ça. En France, d'après les chiffres publiés par l'INSEE en 2023, 33% des enfants vivent dans une configuration qui n'est pas celle de la famille dite traditionnelle, c'est-à-dire au domicile partagé de leurs deux parents. Autrement dit, un tiers des enfants de ce pays ne vit pas dans une maison qui abrite aussi son papa et sa maman. Au sein de ce tiers, la diversité des situations est grande. L'enfant peut vivre avec l'un de ses parents seulement, la majorité du temps, ou bien il passe du domicile de l'un à l'autre en alternance. Il peut aussi vivre au sein d'une famille dite recomposée ou n'avoir qu'un seul parent. Toujours est-il que je répète ce chiffre, un tiers des enfants ne vit pas au sein d'un logement qui abrite les deux parents. Un tiers, c'est tout de même beaucoup. Or, il me semble que dans les histoires pour enfants qui paraissent, ce n'est pas du tout la même proportion. Il me semble que lorsque l'histoire fait intervenir une cellule familiale, cette dernière est, la plupart du temps, composée de deux parents, un papa et une maman unis, qui vivent au sein d'une seule maison. Bien sûr, je m'appuie là sur un ressenti et non sur une étude statistique étayée. Je prends donc toutes les précautions à cet égard. En tout cas, comme mon ami, j'ai cherché moi aussi des histoires à même de refléter notre nouvelle situation de vie à mes enfants et moi. Et j'ai vécu alors ce que vivent toutes les personnes racisées, homosexuelles, non-binaires, transgenres ou issues de minorités, quelles qu'elles soient. J'ai vécu la mélancolie de ne pas se sentir représentée.
Mais vous n'avez trouvé aucune histoire, aucun album jeunesse où il soit question de séparation, Mathilde ?
Si, si, bien sûr, j'en ai trouvé. Ce que j'ai trouvé très facilement, ce sont des livres documentaires sur le thème du divorce ou de la séparation, comme ceux de la collection Mes petits pourquoi aux éditions Milan, par exemple, ou des livres qui racontent l'histoire d'enfants qui vivent une semaine chez papa, une semaine chez maman. Mais ces albums, souvent, nous laissaient sur notre faim, mes enfants et moi. Je les sentais moyennement passionnés par le propos, et l'effet d'apaisement miraculeux que secrètement j'espérais quant à moi n'advenait pas.
Donc rien à recommander à votre ami Tristoun ?
Non, non, non. J'ai deux livres à lui recommander et à recommander à tout le monde parce que ce sont de petits bijoux. Le premier est un album signé d'un auteur dont j'ai déjà parlé de nombreuses fois à ce micro. Il s'agit d'Adrien Albert. L'album s'appelle Papa sur la Lune. Il a paru à l'École des loisirs en 2015. C'est l'histoire de Mona que nous découvrons à l'ouverture du livre en habit de cosmonaute. Et pour cause, aujourd'hui, Mona part chez son papa qui vit sur la Lune. Armée de son sac à dos qui contient toutes ses affaires, elle embarque à bord de la fusée qui se trouve dans le jardin chez sa mère. Cette dernière actionne le levier qui allume les réacteurs. 3, 2, 1, feu, décollage. Après que le vaisseau a été propulsé dans l'atmosphère, la capsule se pose sur la Lune où papa l'attend. Le père et la petite fille savourent le bonheur de se retrouver à la station lunaire. Le deuxième livre que je recommande s'appelle « L'école, maman et moi ». C'est une histoire illustrée dont les textes et les dessins sont signés Clotilde Delacroix. Il a paru aux éditions Seuil Jeunesse en 2018. C'est l'histoire d'une petite fille, dessinée comme sa mère sous les traits d'un lapin, qui a quelques difficultés avec l'école. À la veille d'une rencontre rentrée, elle nous explique l'histoire de sa relation compliquée avec cette institution aux mœurs étranges et toutes les stratégies qu'elle met en place pour s'y faire, avec le soutien de sa mère. Mère et fille qui manient, avec grâce, dérision et blagues, pour survivre aux situations les plus ardues, telles que se lever tôt pour ne pas être en retard, faire ses devoirs, manger à la cantine, etc.
Ce sont vraiment deux livres qui ont l'air absolument super, mais on n'a pas l'impression que la séparation est au cœur du propos, Mathilde.
Eh bien justement, Marie, justement, si j'aime ces livres, c'est parce que le fait que les parents sont séparés ou qu'il n'y a qu'une maman dans l'histoire pour le second est un donné, ce n'est pas le sujet du livre. Dans le livre d'Adrien Albert, n'importe quel enfant qui sait ce que cela représente passer d'une maison à l'autre reconnaîtra dans le trajet de Mona quelque chose de son expérience. Mais le fait que les parents vivent loin l'un de l'autre n'est en rien le cœur de l'histoire. Ce qui fait le sel de l'album, c'est qu'il nous conte l'aventure du voyage et surtout l'infinie tendresse entre le père et sa petite fille. Dans le livre de Clotilde de la Croix, ce qui ravit, c'est le sens de l'humour que partagent cette petite fille et cette mère rock'n'roll et la complicité entre elles qui en découle. Bref, dans ces deux histoires, c'est comme dans la vie. On n'a qu'une maman ou qu'un papa ou deux mamans ou deux papas ou une maman et un papa qu'on voit la moitié du temps et on vit avec ça. Ce n'est pas le sujet de notre vie, ça n'en est pas le cœur, c'en est le décor, le contexte. On fait avec et on vit des tas, mais alors vraiment des tas d'autres choses. C'est cela qui est rassurant, apaisant, enthousiasmant. Je suis sûre que nos auditeurs et nos auditrices auront d'autres idées de recommandations, de belles histoires qui racontent les familles dans tous leurs états et nous parlent à la fois de toute autre chose. Envoyez-les nous, on les attend.
Absolument, merci beaucoup Mathilde. Votre lecture jeunesse est à retrouver sur le site franceculture.fr ou via l'application Radio France et vive les questions de vos amis, quoi. Ça nous emmène loin à chaque fois. À cette heure-ci, dans le Book Club, Mathilde Forget, nous cherchons de la musique dans les livres. Ça s'appelle le grand jeu des pages musicales. On invite aussi nos auditeurs et auditrices à jouer avec nous en nous écrivant à lebookclub@radiofrance.com ou en passant via le compte Instagram du Book Club. Dès que la musique apparaît dans les textes, ils nous envoient des extraits. Mais on a décidé de choisir un extrait d'un roman paru en 2019 aux éditions Grasset. C'était un de vos romans qui s'appelait « À la demande d'un tiers ». J'entre l'adresse de l'hôpital Le Ruisseau dans le GPS. Si je laisse mes mains trop longtemps au même endroit sur le volant, elles restent collées, à cause du plastique vieilli. J'aime le bruit que ça fait, mais la sensation n'est pas très agréable. Dans cette voiture, la Renault 5 Super 5 que m'a donnée ma grand-mère, tout colle un peu. Le tableau de bord, le tissu des ceintures, le levier de vitesse et les bords en cuir des sièges. Pour s'asseoir à l'arrière, il faut passer par le coffre. Je suis attachée au vrombissement particulier de la marche arrière due au moteur à chaîne. Ces moteurs sont bien plus résistants que les actuels. Ce que je sais de ma voiture, je l'ai appris d'un garagiste un peu romantique. Peut-être qu'elle ressemble à un pot de yaourt comme ça, mais croyez-moi, à l'intérieur, c'est un véritable tank. En me le disant, il avait des étoiles, presque des larmes dans les yeux. Il en a offert une rouge de 1992 à sa femme, Gabrielle, avec qui il s'est marié à 19 ans. Parfois, on tombe amoureux d'une personne en écoutant quelqu'un d'autre en parler, comme on tombe amoureux de loup en lisant Apollinaire. Je songe à ton regard de volupté et de douleur tendre qui m'a tant touchée le jour où je t'ai vu la première fois avec ton grand chapeau cavalier et ta blouse orange où s'est concentré pour moi désormais tout le soleil. Je lui ai demandé s'il connaissait la chanson « Les moulins de mon cœur ».
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vide d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne en ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Merci beaucoup Mathilde Forget.
Merci beaucoup
d'avoir été avec nous pour évoquer votre livre si beau, Certaines fièvres échappent au mercure, paru à l'Iconoclaste. Un grand merci à Garance Roubieux pour ces 6 mois d'aventure dans le Book Club. Merci Garance.
Merci beaucoup.
Au son aujourd'hui, c'était Grégory Wallon. À la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à tout le reste de l'équipe du Book Club. Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Léa Weiss-Grus, Jeanne Aléos, Alexandra Alaï-Begovic qui continue la conversation sur le compte Instagram du Book Club et Noé Margas.